À ces moments, nous voulons encore une fois écouter de la part de Dieu. Les dimanches passés, on était là. Combien étaient là les dimanches passés? OK. Et je crois que vous vous rappelez du thème du dimanche passé. Moi, ça m'a énormément béni. Ce sont des enseignements qui m'ont vraiment forgé. Et j'ai eu à prendre beaucoup d'engagement grâce à ces enseignements du dimanche passé. Alors aujourd'hui aussi, nous allons écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais que ton temps ici, ici fait bourré, mais que tu puisses demander à Dieu qui parle à ton cœur. Que tu puisses sortir en ces lieux avec cette part qu'il a prévue pour toi. Et que nous ne sommes pas ici par habitude, non. C'est une grâce particulière attachée à ce culte d'aujourd'hui qui nous a amenés jusqu'ici. Et j'aimerais que tu ne puisses pas sortir ici sans pour autant puiser de cette grâce. Je veux accueillir le serviteur de Dieu. Il va prier pour la parole. Nous pouvons l'encourager, s'il vous plaît. Bienvenue.
Bonjour à tous.
Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous a encore accordée de nous tenir devant vous. Merci au comité de la jeunesse, au président et aussi aux pasteurs qui ont accepté que je puisse prendre la place sur cette chaire. Et bien avant de commencer, j'aimerais un peu que nous puissions saturer cet espace ou cette salle par une adoration à Dieu. Car les sujets que nous allons parler aujourd'hui, c'est un sujet ou c'est un thème qui concerne chacun de nous.
Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci, ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci.
Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. C'est temps que tu nous donnes encore de passer devant toi pour parler. Seigneur, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'une vase. Remplis-moi de toi. Parle à ton peuple en ce jour. Nous voulons comprendre l'essence même de ta présence dans nos vies. Nous voulons comprendre pourquoi tu es toujours présent dans nos vies. Alors sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Parle. Tes enfants, tes serviteurs et servantes sont ici pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est cultiver la présence de Dieu. C'est le thème qu'on nous a donné. Mais je suis un peu parti très, 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 très loin. Et je me suis posé la question, c'est quoi cultiver? Pourquoi on nous parle de cultiver? Qu'est-ce que je dois cultiver? Est-ce que ce sont des maniocs? Est-ce que c'est comme à l'agriculture? Ici, le mot cultiver ne veut pas dire cultiver comme nous le pensons, même si c'est de la même manière, mais on part un peu très loin. Ça veut dire maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Je vais un peu paraphraser les thèmes, c'est maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Et les sous-thèmes que je veux élaborer en ce jour, c'est prendre conscience de la présence de Dieu. prendre conscience de la présence de Dieu. Dans ce monde, depuis que Dieu a créé le monde, tout ce que nous voyons, que ce soit toi ou moi, tout ce que nous voyons en ce lieu démontre la présence de Dieu. Il n'y a rien dans cette terre, sur cette terre, qui démontre la présence de Dieu. Quand on voit les arbres dehors, c'est la présence de Dieu. Mais est-ce que tout ce que nous voyons nous amène à être conscients que Dieu existe? Et comment devenir conscient de l'existence de Dieu? C'est un peu ça que nous allons un peu partager aujourd'hui. Nous allons un peu entrer en profondeur. Et nous avons quelques textes bibliques que nous allons lire. Et nous allons voir l'histoire de quatre personnages de la Bible qui vont nous aider à bien comprendre comment être conscient et comment cultiver ou maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28. Genèse 28, à partir du verset 10 jusqu'à 17. Nous allons lire ensemble. Jacob partit de Beth-Sheba. Il s'en alla à Charan, ou Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » 14. « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. » 17. Il eut peur et dit, « Que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Ici, nous voyons Jacob qui fuit. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Il fuit son frère après avoir volé les droits d'aînesse, après avoir usurpé de sa bénédiction. Nous voyons que Jacob est en train de fuir Ésaü. Jacob est en train de fuir Ésaü, non pas parce qu'il avait fait rien, mais il était en train de fuir parce qu'il avait commis quelque chose d'irréparable, volé les droits d'aînesse. Peut-être que parmi nous aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de fuir beaucoup de choses, mais qui ne savent pas que faire. Il y a un moment de la vie où toi et moi devons s'arrêter et dormir comme Jacob. Prendre une pierre, dormir. Ce n'est pas l'autel. Imaginez-vous, il fouillait. Je n'ai pas vraiment vu l'âge auquel Jacob a eu à fuir. Mais je sais qu'il était encore jeune quand il fouillait Ésaü, son frère. Imaginez-vous, vous comme vous êtes là, vous fouillez. On peut voir comment des rescapés de la guerre fuyaient ici, des réfugiés, disons. Combien on fuit avec tous ces dangers sur la route, avec tout ce qui s'est passé sur la route, Jacob fuit. La Bible dit, il arrive à un lieu. Il arrive à un lieu. Il dit, je m'arrête parce qu'il fait nuit. Peut-être que tu es aussi à un moment où il fait nuit dans ta vie. Tu es dans un moment où tu dois t'arrêter et dormir. La Bible nous montre qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où nous pouvons voir Dieu demande à ce que nous puissions dormir afin qu'il puisse faire quelque chose de nouveau. Combien de fois nous sommes en train de courir sans pourtant s'arrêter? Prendre conscience de la présence de Dieu. Jacob dort. La Bible dit, il dort, il prend une pierre et il dort. Ce n'était pas un oreiller, c'était une pierre. Il dort dessus. Et la Bible ajoute, et quand il dort, en fermant les yeux, il voit un songe. Il voit l'échelle. Dans la racine du mot échelle en hébreu, on parle de l'escalier. L'escalier comme là dehors, comme on monte, c'est ça l'escalier. Il voit un escalier qui a une base sur terre et l'autre qui touchait le ciel. La Bible donne un détail très profond. Il dit, les anges montaient et descendaient. Et le deuxième détail, c'est que Dieu était déjà là. Pendant que toi, tu es en train de fuir tes problèmes, Dieu est présent. Pendant que tu es en train de fuir des calamités, des injures, la honte, Dieu est présent. Il n'attend pas que tu puisses avoir un problème donné. Il n'attend pas que tu puisses être positionné dans une bonne manière ou avoir de l'argent. Dieu est là même dans les problèmes. La Bible dit, Dieu commença à parler à Jacob. Je vais te donner ça, je vais te donner ceci, ta postérité sera là. Et Jacob se réveille d'un bond de son sommeil et il dit, je ne savais pas que dans ce lieu, Dieu y était. Il était inconscient. Il fouillait inconsciemment. Il n'avait pas de la connaissance que Dieu pouvait être partout. Car lui, dans sa vie, il se voyait comme un voleur. Il se voyait comme un usurpateur d'identité. Parce que la Bible nous dit, quand il est parti prendre la bénédiction de son frère, il portait des habits de son frère. Il a même mis fait des, comme on dit, des fakes. Des fakes, des poils. Des poils pirates, voilà. Pour juste prendre la bénédiction de son frère. Combien de fois nous aujourd'hui, nous ne nous acceptons pas comme nous sommes. Mais laisse-moi te donner une très bonne nouvelle. Dieu est là, il te voit. La présence de Dieu est là. Et pour partir encore en profondeur, j'aimerais que nous puissions faire une différence. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, je l'ai définie en la capacité que Dieu a pour se manifester à nous. Je disais, c'est la capacité que Dieu a pour se manifester en nous. Aujourd'hui, on va dire Dieu est présent. Il est omniprésent. Est-ce qu'on peut définir l'omniprésence de Dieu? C'est un aspect un peu très vaste. Mais laisse-moi te dire en un petit mot que quand on dit que Dieu est présent ou on parle de la présence de Dieu, c'est sa manière, sa capacité de se manifester à nous. Nous voyons qu'ici, Dieu attendait Jacob dans un lieu pour se manifester à lui. Et j'aimerais aujourd'hui parler des quatre principes qui font à ce que Dieu se manifeste dans notre vie. Le premier principe, c'est que Dieu se sert toujours des choses palpables ou des choses tangibles, comme ces papiers. Dieu se sert même d'un papier pour te montrer qu'il est présent. Dieu se sert des choses palpables, tangibles, pour te montrer qu'il est présent. Je vais donner un exemple, toujours dans la Bible. Nous connaissons tous l'Arche de l'Alliance, qui avait les deux chérubins qui couvraient l'Arche de l'Alliance. La Bible dit, Dieu a fait cela pour montrer aux enfants d'Israël qu'il était présent. C'était une chose tangible, palpable de la présence de Dieu. Il s'est fait que cette chose tangible, palpable de la présence de Dieu a été arrachée d'Israël. On l'amène dans les pays des Philistins. Dans les pays des Philistins, la chose palpable et tangible de Dieu entre dans les temples de Dagon. Et quand il entre dans les temples de Dagon, la Bible nous dit, le soir là même, Dagon est tombé. Il s'est prosterné devant la chose tangible. Là où vous êtes, la chaise où vous êtes assis. Tant que ce lieu ici, c'est là où Dieu réside. Cette chose-là, là où vous êtes assis, c'est la chose tangible qui représente la gloire de Dieu. Tu ne peux pas venir prendre ces chaises et commencer à voler parce que Dieu va te suivre. Et la Bible dit, Les lendemains, ils sont venus voir Dagon tomber, leur dieu, la statue de Dagon tomber. Ils l'ont relevé. Ils sont partis. Les surlendemains, ils viennent encore. Et cette fois-ci, Dagon n'est pas tombé. La Bible dit, la statue s'est cassée en 1000 morceaux. La présence de Dieu est tellement palpable que tout ce qui est autour de lui, qui ne confesse pas son nom, qui n'est pas pur, explose. Je disais, le premier principe, c'est que la présence de Dieu, Dieu utilise toujours des choses tangibles, palpables, pour démontrer sa présence. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3 nous dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » C'est ce que je suis en train de dire ici. Tout ce que nous voyons, papier, arbre, terre, les pierres précieuses, diamants, coltan, whatever is it, tout ce qui a été créé, que nous voyons, a été fait par Dieu pour que nous puissions comprendre qu'il est présent parmi nous. Quand tu vois ton frère, quand tu vois ta sœur, tu vois tes parents, tu vois la présence de Dieu. Le deuxième principe, c'est que Dieu aime choisir toujours un endroit spécifique pour manifester sa présence. En l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Dieu s'est choisi Jérusalem pour que son nom puisse, en anglais on parle des dwell, puisse demeurer. Il a choisi Jérusalem, un lieu spécifique. Mais quand Jésus vient, il dit, l'heure vient, l'heure est déjà venue, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est comme ça Paul peut ajouter, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans notre vie, dans mon corps, Dieu a une représentation. Il faut avoir cette conscience, prendre conscience que son corps est la représentation de Dieu, ou est la place où Dieu règne. Le troisième principe, Dieu nous parle toujours et très souvent, vous n'avez pas dit toujours, mais très souvent, Dieu nous parle dans des moments difficiles. Dieu nous parle toujours dans des moments difficiles. Il n'y a pas un moment où Dieu parle mieux que quand tu es dans la difficulté. Ici, nous avons lu l'histoire de Jacob. Inconscient qu'il était de la présence de Dieu, Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré dans des moments difficiles. Jacob, dans des moments difficiles, Dieu l'a rencontré. Il était inconscient. Moïse, dans les livres d'Exode, chapitre 33, il passe des moments difficiles avec le peuple qui sont têtus. La Bible dit ils ont le cou roide, très têtu. David passe des moments difficiles où il est loin comme roi, mais il ne peut pas accéder au pouvoir. Il est poursuivi par Saül. Des moments difficiles. Saül. Dieu est présent dans sa vie. Dans des moments difficiles où il désobéit, mais Dieu vient pour l'avertir. Dieu nous parle toujours dans des moments difficiles. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous les humains, on ne prend point garde. Le quatrième principe, Dieu envoie toujours ses anges pour nous parler. Les anges, anges en hébreu ou en grec veut dire messager. Dieu envoie toujours ses messagers pour nous parler. Je peux être son messager aujourd'hui. Le pasteur peut être son messager aujourd'hui. Ton frère, ta sœur, tes parents peuvent te dire arrête, ne pars pas dans cet endroit. Il peut être un messager. Il peut aussi être un messager dit tu manquais ceci, prends. Parce que Dieu répond à nos cris. Le quatrième principe, Dieu envoie toujours ses anges. Et j'aimerais encore approfondir ces sujets en vous disant, quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'assurance. On perd les temps. Quand on n'a pas la conscience que Dieu est avec nous, que Dieu est présent, que la gloire de Dieu est avec nous, on perd l'assurance d'être en vie. Combien de fois, à cause de ce qui se passe dans ce pays, dans cette contrée, dans cette ville, dans cette province, on perd l'assurance. On ne croit même pas que Dieu existe. Quand on n'est pas conscience de la présence de Dieu, on tâtonne. On tâtonne dans tout. Quand on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on manque d'initiative. Jacob a compris que là où il était, c'était la maison de Dieu. La Bible dit, il parle de, c'était la porte de cieux. Dans le mot porte, on voit portail. Je crois que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ont suivi une série qui s'appelle Stargate. Qui connaît Stargate? Bon, nous sommes des anciens. Stargate, c'est une série où on pouvait voir, il y avait comme un mur là, avec plein d'eau, où quand quelqu'un entre, il doit sortir dans un autre pays, pour ne pas dire téléportation. Alors Jacob, dans ses mots ici, quand il parle de porte des cieux, il dit, c'est le portail d'une autre dimension. Quand on est conscient de la présence de Dieu, nous entrons dans une autre dimension avec lui. Nous entrons dans une intimité totale avec lui. Et la personne qui a compris cela, malgré ses problèmes, malgré ses difficultés, c'est David. David avait transcendé là où il était. David pouvait dire, non, ici, je ne peux pas continuer à fuir Saül, je dois prier. La Bible dit que David a eu à écrire plusieurs psaumes à cause de ses problèmes. Il est entré en profondeur, entre autres les psaumes 22. Les psaumes que Jésus a cités sur la croix de Golgotha. Comme vous dites toujours, Heli, Heli, lama sabachthani. David qui l'a écrit. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il voyait comment Saül venait avec des soldats pour tuer qu'une seule personne. Quand on est conscient de la présence de Dieu, on commence à cultiver cette intimité avec lui. On commence à maintenir, oh mon frère, ma sœur, si tu sais maintenir la présence de Dieu dans ta vie, tu iras loin. Il n'y a pas eu meilleur roi en Israël que David. Il n'y a pas eu meilleur roi en Israël que David. Il était, on appelle, l'homme selon le cœur de Dieu. Jacob était inconscient, mais David, lui, n'était pas inconscient. Il était conscient que si je pars tout droit, j'irai là où Dieu me veut. Mais si je pars à droite ou à gauche, je n'irai pas selon la volonté de Dieu. Combien de fois nous nous mettons en dehors de la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas conscients de sa présence? Il y a une personne aussi dans la Bible, Moïse. Moïse a fait des miracles. Quand les livres de Deutéronome finissent, on dit, il n'y a eu personne, aucun prophète qui a fait des miracles comme Moïse, à part Jésus. Bon, lui, il est Dieu. Il n'y a eu personne, étant humain, qui a eu à faire des miracles comme Moïse. Mais il n'était pas satisfait. Moïse dit, si tu ne pars pas avec nous, si tu ne quittes pas ces lieux ici avec nous, nous ne quitterons pas. Moïse était assoiffé de la présence de Dieu comme pas possible. Il a fait des miracles. Il a tapé la mer et la mer avec son bâton s'est fendue en deux. Il a fait sortir des grenouilles. Il a fait sortir des sauterelles, des moustiques. Tout ce que nous pouvons connaître, on parle des armées de Dieu. Moïse était insatisfait. Il était encore assoiffé de la présence de Dieu. Combien sommes-nous assoiffés de la présence de Dieu? Parce que je mange bien, cela me suffit. Parce que je suis dans une situation ou dans une position d'autorité, cela me suffit. Non. Il était assoiffé. Nous voyons Saül. Saül, oui, Dieu l'a pris. La Bible dit, tu n'étais rien, mais je t'ai pris de ta maison. Je t'ai amené à la royauté. Écoutez, Saül était oint trois fois. OK? David était oint, je crois, deux, si je ne me trompe pas, avec Samuel et puis en Hébron. Mais Saül, trois fois oint. Il a hérité de la présence de Dieu au travers de Samuel. Mais à cause de sa désobéissance, Saül a perdu la présence de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 nous dit quoi? 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. La présence de Dieu, une vérité que j'aimerais que nous puissions écrire parmi des vérités. 1. La présence de Dieu n'est pas un acquis. La présence de Dieu n'est pas un acquis. Pas parce que je suis chrétien que Dieu est présent. Je dois maintenir cette présence en moi. Et comment les maintenir? Il faut que je sois obéissant. Samuel dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je ne peux pas dire que je suis chrétien, je suis en présence de Dieu et que je suis désobéissant à la parole de Dieu. Je n'ai fait que venir le dimanche, mais je n'ai pas une intimité totale avec Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je disais la première vérité. La présence de Dieu n'est pas un acquis. La présence de Dieu n'est pas un acquis. La deuxième vérité. La présence de Dieu dans nos vies, quand on les cultive, quand on les maintient, ça forge en nous des gens forts comme des soldats. Ça met en nous, je peux dire, des capacités pour devenir des hommes forts et des vaillants. La présence de Dieu en nous nous protège. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, nous connaissons l'histoire. Il a amassé toutes les richesses de ses parents. Il a fui. Bon, il est parti. Pour ne pas dire la fouille, il est parti. Et il part, la Bible ajoute qu'il a vécu dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans tout ce que vous pouvez connaître comme mal. Mais un moment, il prend conscience que dans la maison de mon père, il y a abondante nourriture. Il y a beaucoup à manger. Qu'est-ce que je fais? La Bible dit, il s'éleva et il a demandé pardon au ciel, tout. Et j'aime les détails. Les pères, voyant son fils au loin, il courut. La présence de Dieu nous protège. Pourquoi il avait couru? Il y a une tradition juive qui dit que si l'enfant était désobéissant à ses parents, qu'est-ce qui se passe? Tous les villages devaient venir avec des vases en argile. Ils viennent avec les vases en argile et quand l'enfant arrive à la porte du village, tous les villageois prennent le pot en argile et les jettent devant l'enfant. Imaginez, vous êtes à 1000, on te jette des pots en argile devant toi, tu peux te blesser. Les papas connaissant cela, ils ne voulaient pas que son enfant puisse être traité comme tous les villageois ou tous les autres enfants. Le papa vient et il protège. Sa présence a protégé son fils. C'est souvent ce que nous n'arrivons pas à discerner dans ces versets. Pourquoi le père est parti vers lui? C'est pour le protéger, afin que les villageois ne puissent pas les jeter des vases. Pour dire, Kéza qui veut dire que Dieu fasse de toi comme il a fait à ses vases, parce que tu as déshonoré ta famille. Mais quand Dieu est présent, il ne regarde pas nos forfaits, il ne regarde pas nos fautes. Dieu nous protège. Sa présence en nous nous protège. Sa présence en nous nous donne la force d'être encore appelés enfants de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie est tellement suffisante pour faire plier nos ennemis et faire de Dieu leur maître. J'aimerais chuter et passer quelques temps à la prière en faisant l'appel à quatre genres de personnes. La première personne, c'est Jacob. Si tu es là et tu te vois comme Jacob, tu t'enfuis des problèmes, des péchés que tu peux avoir. Tu t'enfuis des situations de la vie. Tu fuis les situations de la vie. Tu fuis les péchés, mais les péchés te rattrapent toujours. Mais tu es inconscient de la présence de Dieu. Je vais t'appeler aujourd'hui à savoir que Dieu est prêt à te transformer. Il veut que tu sois conscient d'abord qu'il est là. Qu'il est partout, en tout lieu, à tout instant. C'est ça même l'omniprésence de Dieu. Il est en tout lieu, à tout instant. La deuxième personne, c'est la personne de Moïse. J'aimerais appeler quelqu'un qui est comme Moïse. Il dit, Seigneur, j'ai tellement soif de toi. Je vois tout ce que tu fais. Je mange bien, je me réveille très bien. J'ai tout ce que tu veux que je puisse avoir. Mais en moi, je sens encore ce vide. Je sens encore ce vide. J'ai besoin de toi. Cet après-midi, j'aimerais t'appeler à les désirer encore. La troisième personne, j'aimerais appeler les gens qui sont comme David. Devenir intime avec Dieu. David était un adorateur et une personne qui savait faire des louanges à Dieu. Il savait comment toucher les cœurs de Dieu. Il savait comment entrer en profondeur avec Dieu, malgré ses soucis. Alors j'aimerais t'inviter, toi qui te sens comme David, malgré tes problèmes, malgré tes soucis, à demeurer encore intime avec Dieu et il fera des miracles. La quatrième personne ou groupe de personnes qui ne sont pas le moindre, peut-être qui sont peut-être le premier, c'est la catégorie de Saül. Saül avait tout des dieux. La Bible dit qu'il était beau de taille, beau de figure. Il était, en lingala, on dit ngambé, il était puissant, donc robuste. Il avait tout. Et alors, tout ce que Dieu pouvait donner à un roi, Saül avait. Mais suite à sa désobéissance, il a tout perdu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne sois pas désobéissant à la parole de Dieu. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Avant que ça soit trop tard, avant que le diable ne vienne et commence à dire à Dieu, tu vois, tu veux bénir cet enfant, regarde ce qu'il est en train de faire. Ne sois pas comme Saül. Je vais nous demander à nous lever pour prier. Nous allons prier pour ces quatre personnes, ces quatre groupes de personnes. Pour ceux qui sont comme Jacob, inconscients, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est présent dans leur vie. Ils ne savent pas que Dieu peut changer. Dieu peut tout faire. Je n'aimerais pas te demander de venir devant, mais là où tu es, tu vas juste lever ta main. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais te connaître mieux. J'aimerais être conscient de ta présence. Le deuxième groupe, c'est le groupe d'une personne comme Moïse. Lui, il a tout de Dieu, mais il désire encore plus de Dieu, sa gloire, sa présence qui protège. Tu vas aussi lever ta main. Tu vas dire, Seigneur, je désire encore ta gloire dans ma vie. Je ne regarde pas le passé. Tout ce que tu as eu à faire avec moi, c'est derrière moi. Moi, je regarde l'avenir. Parce que Moïse savait que la terre promise sans Dieu est vide. Le troisième groupe aussi, c'est le groupe des gens qui sont comme David, qui désirent encore de l'intimité, qui pensent même être fatigués, mais ils veulent encore une profondeur avec Dieu. Tu vas aussi lever ta main, tu dis, Seigneur, rends-moi intime avec toi. Et le quatrième groupe, c'est les gens qui sont désobéissants. Mais pour eux, j'aimerais qu'ils puissent venir devant. Et le pasteur va prier avec eux. Pour le quatrième groupe, ceux qui savent qu'ils sont désobéissants à la parole de Dieu, ils vont passer devant et on va prier avec eux. Ils veulent être obéissants parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Tu vas passer devant, on va prier avec toi. N'aie pas honte de ton voisin, ta voisine. Quand tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est là. Dieu est présent. Dieu veut faire et veut changer la situation de ta vie. Jésus, à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de toute grâce. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité.
Seigneur, nous désirons ta présence dans notre vie plus que toute autre chose. Mes frères et sœurs, ensemble, Seigneur des armées, nous désirons ta présence. Nous sommes comme ces Jacob inconscients, fuyant nos passions, fuyant nos forfaits, nos péchés. Yahweh, nous approchons dans un lieu que nous ne connaissons pas. Mais ta parole nous dit, toi, tu as été là. Tu attendais Jacob au tournant de sa vie. Yahweh, nous sommes comme Moïse, fatigués et surchargés par les poids de notre responsabilité. Mais nous désirons toujours que tu pars devant nous. Parce que si tu ne pars pas devant nous, toutes les responsabilités que nous pouvons avoir, Yahweh, va partir. Nous sommes comme David, malgré les problèmes, malgré les soucis, Seigneur. Nous désirons encore être intimes avec toi parce que, étant intimes avec toi, tu nous donnes la protection et la force. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Saül, ayant en lui l'onction, mais il s'est détourné à cause de la désobéissance. Seigneur, nous ne voulons pas être désobéissants à ta parole. Nous voulons être des hommes et des femmes qui suivent ta parole et qui marchent selon tes préceptes, selon tes voies. Seigneur, demeure en nous. Nous voulons aussi demeurer en toi. Que dis-je? Nous voulons demeurer en toi pour que tu puisses demeurer en nous, comme le dit ta parole dans le livre de Jean 15:4. Seigneur, demeure en nous. Ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas, Yahweh, fragiles, vulnérables. Si tu ne viens pas à notre secours, si tu n'es pas notre Dieu, nous ne serons pas, Seigneur, là où nous sommes. Sois notre berger, le berger qui marche toujours devant son troupeau, devant son peuple. Marche avec nous. Je te confie tout un chacun de nous qui veut être conscient de ta présence, qui veut être conscient de ta gloire dans sa vie, que tu puisses le faire et le faire bien comme toi tu l'es fait, Seigneur. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole qui est vie dans nous aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ma prière pour vous, c'est qu'il vous augmente et qu'il vous révèle encore plus de connaissances de sa parole pour l'édification de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de recevoir la parole de Dieu. J'espère que chacun de nous aille sa part aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre, on vient encore une fois de nous encourager à maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Et dans tout ce que nous faisons, partout où nous passons, que nous puissions maintenir la présence de Dieu dans nos vies. Amen.